de Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Tu as dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 44e exactement émission de l'Instant Sport, votre magazine, vous en avez l'habitude, d'actualité sportive lozérien, nationale et internationale. Alors il va être question d'excuses dans cette petite introduction, après l'affaire qui secoue le monde du football et les insultes du Parisien Serge Aurier à l'encontre de son entraîneur et de ses coéquipiers. Alors hier, Serge Aurier s'est excusé, nous avons la chance dans cette émission d'avoir un spécialiste excuse. Laurent Julien, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Alors j'aimerais bien avoir ton avis. Serge Aurier a-t-il été bon hier dans ses excuses ?
Voilà, Serge Aurier hier avait repris toute sa tête. Il avait arrêté de fumer de la chicha avec ses copains. Et en effet, il a été pas mal. Bon, j'ai eu une petite larme à l'œil pendant le Canal Football Club.
Mais ça, c'était pendant le résumé de Nice-Marseille, non ?
Oui, c'est ça. Et en fait, ça n'empêchera pas qu'il sera sanctionné et lourdement et heureusement, parce qu'on n'a pas le droit de critiquer ses partenaires de jeu, ni moi et son coach. Et donc, voilà, il sera sanctionné, c'est très bien pour lui.
Non, mais Patrick veut intervenir. Salut Patrick.
Non, mais salut à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai trouvé des similitudes quand même entre les excuses de Serge Aurier et les tiennes il y a quelques semaines. Donc je pense qu'il doit écouter cette émission. Il a dû se dire, bon, ça s'est tellement bien passé pour lui, il faut que je fasse la même chose.
Je crois que Laurent va entamer une carrière de consultant en excuses.
Consulting. Ouais,
ça, c'est son chargé de com. Serge Aurier a dit, écoute-moi ça là, prends exemple. Alors, on va voir s'il arrive à bien s'excuser, lui aussi. Car des excuses, j'en attends également de la part du capitaine du BCM qui a perdu ce week-end 31-112. Bonjour Aurélien Lacaze.
Bonjour à tous.
Tu te croyais au All-Star Game à Nîmes, 112 points ?
C'est ça, exactement. On était dans l'esprit All-Star Game, c'est-à-dire défense pourrie et n'importe quoi en attaque. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça a pas mal marché niveau défense pourrie et attaque calamiteuse. On a été très bon là-dessus.
On n'arrive même plus à faire la différence de... Enfin, l'écart, quoi. On n'arrive même plus à calculer l'écart.
C'est clair, justement, on va en parler au capitaine, au leader de la défense du BCM, Luc Respont.
Le titre magique.
Excusez-moi, mais on n'était pas à ce match, non ? On y était ? Je ne me souviens pas avoir été à ce match.
Donc. Ah, mais il s'est arrêté au KFC, tu as dit qu'il était. Ah non, au Burger King. Anime, c'est au Burger King.
Ils ont fait les deux, super.
T'es arrivé en retard, Luc, c'est pour ça.
Moi, je suis arrivé après le match, je crois. Je crois que je n'étais pas là. Non, il y a eu un. Non, mais on n'a pas joué samedi, en fait. Vous êtes trompé.
C'est fou. Enfin, bref. Notre invité aujourd'hui vient d'être élu sportif midi libre de l'année. C'est mérité au vu des excellents résultats qu'il obtient en VTT. Frédéric Delars, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. On va commencer par les résultats sportifs des sports collectifs avant de passer à ton actualité. Alors, comme on en a parlé en introduction, on va vite passer sur le basket. Donc, c'était soir de All-Star Game à Nîmes. Nîmes 112, BCM 31, 65 à 18 à la mi-temps. 6 points du capitaine Aurélien, c'est bien, 6 points. Bon, t'es toujours pas dans tes standards, t'as du mal à retrouver ton niveau, mais bon, les cartons ils sont faux sur.
Avec un pouce à moins aussi, c'est pas évident.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Les cartons ils sont pas bons ceux que j'ai ?
Si, ils sont bons, malheureusement. D'accord. Ils sont bons.
Surtout le second.
Alors, ouais, on va le dire 28-10, 37-8, 28-8, 19-5. Pff, c'est mal, hein.
T'as tout résumé dans le souffle que tu viens de faire, effectivement. C'était un match très long. J'ai eu l'impression qu'il a duré deux fois plus longtemps que d'habitude.
Ouais, il y a des matchs comme ça, compliqués.
Ouais, ça fait mal à la tête, c'est sûr, hein, mais bon.
Ouais. Et Mons, chez Saint-Gilles-du-Fesque, qui est troisième, a perdu 75 à 44, juste. Hein. Ouais, attention.
Juste 31 points, quoi.
Et on n'est pas à 112 à combien ? 112, 31.
Non, mais le résultat, il y a une erreur, final, c'est le même. Il y a une erreur, c'est 112-111.
Ah, 112-111.
On sait trop. Il y a eu une erreur de la table de marque.
131-112, en fait.
Allez, bon, bref, match oublié. Prochain match, c'est quand ?
Prochain match, c'est ce week-end. On se déplace à Castelnau.
112-33.
112-33, peut-être.
C'est ton pronostic ? C'est ça ?
Non, non. On croit en vous, les gars.
Ouais, hein ? Merci, merci.
On croit en vous, Patrick.
Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on les taquine un peu, mais bon, il y a quand même 2 victoires au compteur cette saison. Bon,
oui.
On n'a pas vécu ça toutes les années, hein, mon cher Luc.
On garde toutes nos forces pour les matchs contre Moggio et à tout sport. Match retour qui vont nous permettre de sauter ces deux équipes et d'arriver dans une place beaucoup meilleure.
Et à l'Est aussi, vous pouvez les battre ?
Non, à l'Est, non.
Et puis à l'Est, on a déjà fait les deux matchs contre eux.
Ah, d'accord.
C'est un petit peu du même acabit. Donc au golavarage particulier, à l'Est, déjà, c'est mort. Hein.
Ouais, ils peuvent passer devant à l'Est, mais il faut qu'ils gagnent leur autre match et qu'à l'Est perdent tout. Et... Golavage particulier, ça marche pas. Comme d'autres équipes évoluant en Lozère ce week-end, le rugby, ça a été remis. Hein, on sait que Langogne, le NL, la réserve de l'AFL, etc. ont été remis.
Mais donc, pour le rugby, c'est la communauté de communes Cœur Lozère qui a décidé de fermer tous les stades.
Ah bon ?
Donc c'est pour ça que la réserve de l'AFL n'a pas joué à Roufiat, c'est pour ça que le rugby n'a pas joué au chapitre, et c'est pour ça que Badarou n'a pas joué sur son terrain, puisque le terrain de Badarou dépend aussi de la communauté de communes.
À cause de la pluie ?
Oui, bon, c'est vrai qu'il y a surtout eu pas mal d'intempéries, et donc les terrains étaient vraiment gras, et donc pour protéger les pelouses, il a été décidé de fermer, de prendre un arrêté municipal.
Ouais, de toute façon, je crois que les arrêtés doivent être pris avant le vendredi 16h ou 17h, je crois. Sinon, au-delà de ce délai, c'est les arbitres qui décident, donc voilà, généralement, le vendredi après-midi, ils attendent pas trop de voir l'évolution, ils préfèrent prendre les arrêtés.
Pour faire les arrêter, éviter un déplacement aux adversaires. Ce qui n'est pas toujours le cas quand nous on descend, on arrive en bas.
Oui, parce que Coco Boyer en a eu la désagréable surprise. Il est arrivé, à l'Est, non ?
Non, c'était à la grande motte.
Non, mais avec les jeunes le week-end dernier, il est descendu avec une équipe de jeunes et donc l'arrêté municipal a été pris un quart d'heure avant qu'ils arrivent. Super. Donc voilà, le dimanche matin, et donc tu arrives, tu repars immédiatement.
Normalement, même s'il y a un arrêté municipal qui est pris un quart d'heure avant le début du match, c'est l'arbitre qui doit décider. Si l'arbitre décide de passer outre l'arrêté municipal, il a le droit. Au moins, à mon époque...
Ça arrive rarement.
Du coup, ils sont allés au Burger King, ils ont dit « Ah, mais encore des mondoirs, on en a vu !»
Voilà. Exactement.
Voilà, nous ça nous aiderait les arrêtés municipaux, mais il faudrait qu'il neige dans le gymnase, donc c'est un peu plus compliqué.
C'est vrai. Fred, tu suis d'autres sports collectifs un peu en Lozère ?
Collectif, pas trop. Plutôt des sports individuels.
Ok. Natation, tennis, tu suis quoi à peu près ?
Natation, ouais.
Natation, ouais. Laurent nage très bien, à ce propos-là, mais bon. Enfin, bref.
Il nage nu.
Mais il nage nu, ouais.
Le soir, entre 20h et 21h. Tout. Ouais.
Le volley. Alors, des résultats étonnants. En tout cas, pour Mantes, ça s'est bien passé. Premier tour des playoffs, le MVL, victoire à l'arraché chez la réserve de l'Arago de 7, 3-7 à 2. 25-14, puis 18-25. 25-19, 22-25. Et tie-break à 15 à 8 au dernier set. Alors, dans les autres résultats, Montpellier perd à domicile contre Alès, 3-7 à 0.
C'est la vraie surprise de cette journée.
Ouais. Et aussi, bon, un peu moins, mais Marseille perd contre Arles, 3-7 à 0 à domicile. C'est un peu une surprise, ouais, quand on attendait mieux.
Marseille ne sera pas un danger pour Mende.
Et Mende gagne contre Toulouse à domicile, 3-7 à 1.
Non, à 7. Monaco gagne contre Toulouse.
Oui, ouais, Monaco gagne contre Toulouse, 3-7 à 1. Non, Mende a gagné à 7. Ouais. Donc, avant de parler de ce match, au classement, Aurélien ?
Alors le classement, Mende est premier avec 19 points, deuxième Monaco 15 points, troisième Montpellier 12, quatrième Arles 10, et après cinquième Alès 9 points.
Alors avant de parler du match, Patrick, j'ai une question à te poser.
Ouais.
Pour moi, enfin à mon avis, c'est un match importantissime du fait que tu gardes des points d'avance par rapport à Monaco et tu peux te permettre un faux pas ensuite contre cette équipe.
Oui, alors bon, pour avoir discuté avec Papy Barthier, donc, qu'on avait reçu dans cette émission il y a quelques semaines, bon, pour lui, son analyse, elle est toute simple, c'est qu'il n'y a plus que trois équipes qui sont en mesure de viser l'accession. Bon, bien évidemment, Mende, et aussi Monaco et Montpellier, parce que c'est vrai, je pense qu'il a raison, il y avait un écart, même avant cette journée, un écart vraiment importantissime entre ces trois équipes, en particulier Mende, par rapport aux autres formations. Et donc, bon, Mende partait avec un matelas de 5 points. Excellent résultat puisque Montpellier, un des favoris pour cette montée, bon, a perdu à domicile contre Alès. Alès qui ne pourra pas viser la montée. Donc, excellente opération pour Mende. Et donc, voilà, à mon avis, le principal concurrent va être Monaco, puisque Monaco s'est imposé. Donc, Mende perd quand même un point par rapport à Monaco et en garde plus que 4 par rapport à 5. Donc, on imagine les deux confrontations face à Monaco seront énormes. Et donc, comme le dernier match est à Monaco au mois d'avril, on peut presque peut-être commencer à réserver
nos
billets, voilà, le casino.
L'entrée au casino,
on a
les dates. On a les dates.
Tu as les dates. C'est fin avril. Alors, la date précise, je ne l'ai plus en tête, mais c'est vraiment le dernier match.
Dernier week-end d'avril, je crois.
Voilà, tu reçois Monaco au match aller, et donc tu vas à Monaco, et ça sera le dernier match de la saison.
Après,
donc,
peut-être le match.
Voilà, peut-être le match ici.
Ouais, il y a 7 points chez au classement, 19 pour Mende et 12 Montpellier.
Oui, donc c'est pour ça.
7 points, c'est énorme.
Oui, voilà, donc parce que Montpellier a perdu contre Alès. Si Montpellier avait gagné Alès, bon, la logique l'aurait voulu, donc Montpellier aurait 15 points, donc tu vois, égalité avec Monaco, donc là plus 4 points face à Mende.
C'est fort possible qu'avant Monaco ça soit déjà joué, hein.
Oui, c'est fort possible aussi, c'est vrai.
On va peut-être jouer un peu sur le mot. Tu as dit que c'est un excellent résultat. Je pense qu'un excellent résultat aurait été un 3-1.
Oui, non, mais je parlais d'un excellent résultat de la défaite de Montpellier.
Après, c'est vrai que
tu as raison de le dire. On peut avoir quand même du regret vis-à-vis de ce match, parce que certes, tu le vois au classement, Aurélien l'a dit, certes, était dernier.
Oui, mais on avait dit que ça serait difficile.
Voilà,
quand même,
c'est difficile parce que si tu ne réserves, et l'équipe première de certes est actuellement leader de la première division.
La Liga.
Enfin, donc voilà.
Les gars, on va pas faire la fine bouche. 3-2, c'est une victoire à l'extérieur.
À l'extérieur.
Ouais. Ok, certes, Monaco. Je pense que Monaco joue à domicile, non?
Oui, à domicile.
On va voir ce que donne Monaco à l'extérieur aussi. Hein, sachant que le MVB reçoit la semaine prochaine
Marseille.
Donc,
je crois qu'ils jouent le dimanche parce qu'ils n'ont pas pu avancer le match au samedi. Donc ils vont jouer dimanche à 15h.
Dimanche à 15h. Enfin, je pense que c'est quand même dans l'absolu, même si effectivement il y a un point perdu par rapport à Monaco au classement. Je pense que c'est quand même une bonne opération. D'autant que
Seth va peut-être faire jouer des pensionnaires.
Non, ils n'ont pas le droit. Il a bien retenu.
D'autant que, très bien. Ce qui me semble, hein, c'est que Seth est revenu à égalité à 2-7 partout.
Oui.
On sait dans ces conditions que souvent sur la dynamique, ils auraient pu arracher.
Mais c'est vrai que le regret que tu peux avoir, c'est que tu étais en tête lors de ce fameux quatrième set. Je crois que tu menais 14 ou 15 à 11, mais tu avais 3 ou 4 points d'avance, voilà, quasiment à la fin du quatrième set. Donc c'est dommage de ne pas avoir maintenu cet écart et d'avoir empoché ce quatrième set. Bon, c'est vrai que, premier match de la deuxième phase, c'est vrai qu'il y a un peu d'appréhension, tu joues à l'extérieur, bon, contre une réserve, bon, des gars quand même qui s'entraînent quasiment tous les jours, bon, y a rien à dire, c'est quand même une bonne opération d'avoir marqué ces deux points.
Ben, c'est plutôt que s'il manque un point à la fin de la saison, ben, on viendra le chercher, d'accord.
Je suis d'accord avec toi.
Si t'as 6 points d'avance avant la dernière journée, t'as pas besoin d'aller chercher.
Non, mais après, si tu gagnes dimanche contre Marseille 3-0 ou 3-1, c'est-à-dire que tu marques 3 points, bon, mais ça bonifiera aussi cette victoire à l'extérieur.
Je pense que le vainqueur du match aller entre le MVL et Monaco aura aussi marqué des points et marqué les esprits.
On les reçoit et après on va chez eux, c'est ça.
Oui.
Après, ouais. ça leur fait peut-être du bien aussi de s'attaquer à une équipe qui est un peu plus difficile pour se mettre vraiment dans cette deuxième phase, dans ces playoffs, parce que c'est vrai que la première phase, ils ont gagné tous leurs matchs assez facilement, donc peut-être que là, ils vont avoir un peu plus de concurrence et c'est peut-être pas plus mal pour vraiment prendre une dynamique et s'attendre à des gros matchs.
Très bonne
la suite.
Remarque, Aurélien Lacasse.
Exact, mais c'est vrai qu'on voit la perversion de ce système. On fustige souvent la Fédération française de volleyball, mais là, tu en as vraiment la preuve. Avec ce classement, donc si tu viens de faire à peine une journée de play-off, tu as quasiment plus de la moitié des équipes mais qui n'ont plus rien à jouer. Parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas descendre puisqu'elles sont en play-off, mais elles savent qu'elles n'ont aucune chance quasiment de monter. Donc est-ce qu'elles vont jouer le jeu après dans 2 week-ends, 3 week-ends? Est-ce qu'elles vont laisser complètement filer? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont dire je vais m'occuper de mes gamins et j'arrête un mois ou un mois et demi avant la fin de la saison? Tu sais pas, tout est possible, et bon, c'est vrai que c'est quand même pas, ça fait pas très sérieux.
Tu as raison, Patrick.
C'est pas très sérieux.
Il faudrait faire des éliminations directes en play-off, comme ça se fait dans
certains sports. Ou tu repars à zéro sur la deuxième phase.
Oui.
Tu tu repars.
Oui, mais c'est un autre faveur, on va pas.
Mais ça, ça serait, non, mais c'est vrai, ça serait c'est juste c'est de clair. Repartir à zéro.
Oui, parce que c'est.
Ouais. Comme tu au basket, tu... hein, le premier contre le huitième de l'autre poule, etc.
Ou tu qualifies, tu qualifies les deux premiers de chaque poule pour des playoffs et puis voilà, et tu repars à zéro.
Non, mais tu regardes, tu reçois Marseille dimanche. Marseille a 7 points. Toi, tu en as 19. Comment tu veux que Marseille. C'est impossible. Ouais. Bon, mathématiquement, c'est possible. Mais bon, dans les faits, tu sais que c'est impossible. Alors, donc, quelle va être la motivation de Marseille donc, de venir à Cabella, Amande bon.
Ouais. Peut-être meilleur voler.
Alors, avant que Laurent s'excuse auprès de la Fédération française de voler, Fred, vous vous côtoyez avec les volleyeurs, enfin, je sais notamment au col. Au centre omnisport de Lozère avec Constant, avec le
plutôt
staff,
les cadres, ouais.
Ouais, avec les cadres, ouais.
Côtoie bien Constant et puis David Julien. Voilà, mais ce sont les deux seules personnes que je croise du volet.
Bah, c'est tout, 100% tu as croisé. Voilà. Parce que je crois qu'il y a
non, staff. Les joueurs, je les croise,
Non, tu les croises pas.
Et
non.
Tu peux apprendre d'eux, de leur expérience, de transposer un peu des conseils de sport collectif au sport individuel, c'est possible?
Bien dans sûr, la motivation, bah, après, ou... ça reste du sport. C'est vrai que toutes les notions de préparation physique, elles peuvent être transposées d'un sport à l'autre. Après, c'est vraiment quand on rentre dans la spécificité de chaque sport que, eh bien que voilà, on a nos domaines bien précis. Mais sinon, non, on parle, on échange beaucoup et on travaille ensemble.
Donc le week-end prochain, c'est à domicile, c'est dimanche 15h, ce n'est pas un horaire habituel contre Marseille. N'hésitez pas à venir. Dans les autres résultats du MVL, la Pré-Nationale perd à Saint-Christol-les-Alès 3-7 à 2 et reste au milieu du classement avec à peu près 15 points. Et les filles gagnent 3-7 à 0 pendant que Béziers gagne Clermont-Lérault 3-7 à 0, donc rien ne change. Au final, une égalité en tête du classement. Un bon week-end pour le MVL, bon, mis à part la Pré-Nationale, mais qui s'accrochait. Donc.
Oui, parce que Saint-Christol est une équipe de haut de tableau.
Exactement. Très belle opération handball avec le MGC qui va s'imposer à Marguerite sans plusieurs de ses titulaires 34 à 32. Surtout que pendant le même temps, ouais. Patrick,
et oui.
Nîmes perd à Frontignan 36 à 31. Donc, au classement, Aurélien.
Donc, au classement, Mende est premier avec 40 points. Deuxième, Nîmes, 36 points. Troisième, Agde, 36 également. Quatrième, Marguerite, 30 points. Et cinquième, Latte, 27.
Laurent, sur ce match, tu as eu des échos?
Oui, alors l'équipe était partie un petit peu diminuée avec 4 joueurs à moins, donc il n'y avait pas toutes les certitudes qu'il y avait contre le match de Agde.
Ils n'avaient notamment pas Maxime Joubert en défense, me semble-t-il.
Le défenseur.
Leur défenseur.
Et Maxime André qui était suspendu pour encore 2 matchs. Et bon voilà, ils ont fait une belle victoire à Marguerite qui
était. C'est jamais facile.
Voilà, c'est jamais facile.
Quatrième au classement.
Quatrième au classement, qui avait battu Nîmes. Oui. Je crois à domicile. Donc voilà, c'était pas gagné. Puis bon, donc ils l'ont fait avec 2 points d'écart à la fin. L'écart était plus gros. Je crois à 13 minutes de la fin, il y avait plus 9. Et puis bon, ils ont réussi.
Il y avait 15-14 pour Marguerite. Hein.
Ils ont réussi à tenir le coup.
Ouais, ils se sont un peu fait peur hein, sur la fin de match parce que les gardois sont revenus. Il a fallu un dernier but, je crois, de Jérémy Roum et. Pour faire la différence.
Bartholome, 13 buts.
Ouais.
C'est énorme ça, 13 buts.
Joueur atypique, hein.
Oui.
On l'a vu contre Agde, hein. il était pas titulaire d'entrée. Et après, il avait fait une période, un passage en deuxième mi-temps. Il avait mis 2-3 buts, en particulier un penalty qui était crucial contre Agde. Bon, c'est vrai qu'on sent dans son jeu, moi je trouve ça un joueur atypique. Alors bon, peut-être les spécialistes me contrediront, mais j'estime, c'est vrai que c'est un joueur, bon, on voit pas.
Un pur gaucher.
Voilà, ouais, on voit pas ce genre.
C'est atypique en tout cas.
Ce genre de spécimen, entre guillemets.
Et un but d'Olivier Cavalier, donc l'ancien gardien qui est désormais.
Pivot.
Pivot en défense, ouais.
C'est vrai. Sur ce joueur, Laurent.
Quel joueur? Pardon,
Bartholome qui a marqué 13 buts.
Oui, mais c'est un joueur qui a un très bon potentiel, qui vient du club de Latte, qui joue soit en équipe 1, soit en équipe 2. Donc il n'est pas un titulaire indiscutable en équipe 1. Mais c'est un joueur de club, donc quand on lui dit de jouer en 2, il fait son match en 2. Il s'occupe de l'école de handball, donc il est souvent présent sur les gymnases. Voilà, c'est un très bon joueur, un joueur de club, joli bras gauche, quoi.
Ouais, alors... pas très grand, hein, alors que c'est vrai que quand tu joues arrière, bon voilà, c'est vrai qu'il prend des shoots, il prend des shoots d'assez loin, et bon, grâce à son poignet, justement, sa main gauche assez incroyable, il arrive à sortir son épingle du jeu, alors que c'est vrai que bon, il a parfois des joueurs impressionnants face à lui, et c'est vraiment pas évident de trouver la faille.
Hein. Ben bravo surtout aussi au coach Pascal Daudet qui arrive à concentrer, à faire garder. Des joueurs sous pression,
ouais, c'est sûr,
parce que là je vois qu'il a fait monter des joueurs de l'équipe 2 vu qu'il manquait du monde évidemment. Je pense au petit Pourchet, donc d'autres joueurs qui jouent moins comme on disait Cavalier. Et donc c'est bravo au coach aussi de réussir ce pari là avec des joueurs qui jouent habituellement en équipe 2, même s'il y a un très bon niveau en équipe 2 aussi au MGC.
Et puis il faut souligner l'autre bonne nouvelle de la journée, c'est cette victoire de Frontignan contre Nîmes. Qui permet au MGC d'avoir un joker.
Et Agde.
Tu as deux victoires d'avance maintenant sur Nîmes et sur Agde.
Sur Nîmes et sur Agde.
Et Agde a gagné 33-32 à domicile et contre Latte. Hein.
Donc c'est vrai que ça a été chaud. Dans ce match à Marguerite, il y a un peu eu le même scénario que contre Agde, puisque tu menais assez largement en première mi-temps, et puis dans les 10 dernières minutes juste avant la mi-temps, il y a eu un énorme trou d'air, comme contre Agde, et donc ce qui fait que le score à la mi-temps était hyper serré, alors que tu menais largement, que tu aurais pu presque tuer le match dès la première mi-temps.
Ouais, et puis aussi, comme le disait Laurent, en deuxième mi-temps, t'as 9 buts d'avance, je crois, à la 48e ou à la 49e, et c'est vrai que tu te prends un peu la foudre derrière, et là, faut avoir aussi le mental pour tenir et pour gagner le match. Donc, grosse performance de Mende. Je crois que Marguerite n'avait perdu qu'un match à domicile depuis le début de la saison.
On était peut-être invaincu.
Donc il fallait aller chercher cette victoire quand même. Hein.
Ouais. Laurent, une défaite des filles par contre.
Voilà, les filles ont perdu à Bouillargues de 5 buts d'écart, je crois.
Ah, c'est leur copine Bouillargues.
Voilà,
on avait vu le match avec
copine. Ouais. Et juste à souligner, pour lui passer un petit coucou à Marie Almeras qui s'est ruiné l'épaule sur ce match. Donc voilà, un petit message d'encouragement à Marie.
Toujours compliqué d'aller jouer à Bouillargues.
Mais cette défaite de Nîmes pour revenir au garçon va te permettre d'avoir ce fameux joker et donc tu pourras, entre guillemets, te permettre de perdre à Nîmes. Et malgré cette défaite à Nîmes, tu resteras quand même toujours premier. Donc il te faudra faire après le plein par rapport aux autres adversaires.
Je pense qu'il n'envisage même pas une seconde d'aller perdre à Nîmes.
Non, je sais que le coach l'envisage pas. Mais bon,
ne le soumets pas à Pascal.
Il sait qu'il a ce joker.
C'est contre qui le prochain match, on le sait ?
Je sais pas. J'ai pas une tête. Hein.
Donc, j'ai une idée.
Aurélien, je t'ai vu hésiter.
Je crois que c'est un match de coupe qui arrive là.
Ah, c'est possible. Ah oui, c'est un match de coupe, mais pas la Coupe de France.
Pas de France, mais coupe de quelque chose.
Et pour nos amis du handball Nord-Lozère qui ne jouaient pas d'ailleurs ce week-end.
Si, les garçons jouent.
Ils jouent on s'intéresse qu'aux féminines avec Laurent.
Ah, c'est la semaine prochaine, je crois.
C'est la semaine prochaine.
D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'ils organisaient un bus pour aller supporter les féminines. Ouais.
Mais si tu fais de la pub à la radio, il faudra un deuxième bus, par contre.
Alors, un troisième, peut-être ?
Tu conduiras ?
C'est peut-être pas une bonne idée. Hein.
C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de matchs intéressants le week-end prochain. On va passer au football, dans le choc au sommet entre la réserve de Sète et Marvejols au terme d'un match équilibré, mais apparemment, tu me le dirais, Patrick, entaché de deux erreurs de défense pour Marvejols. Marvejols perd 2-1. Ouverture du score de Diallo à la 5e, puis pénalty pour 7 de Janvier à la 27e, et but de Longin à la 74e. Tu as eu des échos de ce match, Patrick ?
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que Marvejols, maintenant, commence à vraiment avoir une grosse renommée dans cette ligue Languedoc-Roussillon. Et d'après ce qu'on m'a dit, vraiment, 7 était remonté comme jamais dans ce choc au sommet. Et donc, au niveau des dirigeants, des joueurs, il y avait vraiment une grosse pression qui avait été mise toute la semaine du côté de ces Maritimes. Et donc, on a vu un énorme choc. C'est vrai que Marvejols peut avoir des regrets quand tu mènes 1-0, tu marques d'entrée. Bon, après, tu arrives à tenir le nul et tu perds un quart d'heure de la fin. C'est vrai que ça fait mal. Mais bon, je pense que le plus a été ce premier but, ce penalty concédé suite à une énorme erreur de relance et donc qui s'est transformé à une faute dans la surface. Et donc, ça provoque l'égalisation de 7. Je pense que c'est un peu là les regrets de la part de Marvejols.
Ouais, deuxième défaite contre 7 sur le même score. Hein. C'était 2-1 déjà au match aller, 2-1 au match retour. Oh, c'est dommage. C'est vrai que pour une fois, les attaquants Marvejols sont un peu restés muets. Juste un petit but, eux qui sont d'habitude.
Ils ont eu pas mal d'occasions apparemment.
Ouais, ils ont eu pas mal d'occasions. Après, c'est vrai que c'était le Le gros match, bon, c'est...
Il y avait un peu de fatigue aussi, puisque quand même Marvejol avait joué mercredi.
Oui, parce qu'on l'a pas dit,
coupe,
mais...
En Coupe Garloser, ah. Un déplacement à Beaucaire, et là un festival offensif, 5-2. Beaucaire qui joue dans la même poule que Marvejol, donc un DHR, donc 5-2. Bon,
d'autant voilà. Plus qu'ils ont fait le déplacement à 11, et que Charles Cartaillac, je crois que c'est lui qui s'est blessé en début de match quasiment, et donc ils ont joué ce match-là quasiment tout le match à 10, et ils ont quand même réussi à battre Beaucaire 5-2 à 10, ce qui explique aussi peut-être que dimanche ils étaient peut-être un peu fatigués aussi. Ouais. Et ils ont encore un match en semaine, je crois, un match de Coupe de la Région.
Oui, Coupe de la Région, le 24 février, ils reçoivent Aigues-Mortes. Et d'ailleurs, ce jour-là, Mende doit recevoir la Grande Motte. Toujours pour la Coupe de la Région, à moins que la Grande Motte ne se déplace pas, mais bon, ça c'est leur problème. En tout cas, le match a été fixé par la Ligue au 24.
Semaine,
Ceci dit, ce qui ferait peut-être les affaires de l'AFL qui doit jouer contre Narbonne. Narbonne le dimanche après.
Narbonne,
c'est
dimanche.
Ce week-end.
On y arrive justement. Alors, en attendant, Marvejol n'est pas vraiment décroché. 7 49 points, Béziers 49.
Alors, il y a une petite erreur. En fait, 7 à 50 points.
50 points.
Oui, et c'est Béziers qui a 49.
Béziers qui a gagné à Fabregas. Voilà. Et Marvejol 46.
On a annoncé un jour une défaite de 7, et en fait, il y avait eu un match nul 3-3. Alors, je sais plus contre quelle équipe c'était. Donc, ce qui fait que 7 a un point de plus 7, au classement. Donc 7 à 50 points, Béziers 49 et Mende 46.
Ok. En tout cas, ça se tient encore. Ils peuvent réaliser.
Tout est possible encore. Ouais. Tout est possible. Parce que là, les trois équipes ont le même nombre de matchs. Et le week-end prochain, Marvejol est exempt.
Ok, allez, un match fou à Perpignan, Bavernais, 4-3 pour Mende qui est revenu 3 fois au score avant donc de l'emporter. Doublé de Gourma, 45e, 59e, Rebolosso encore lui qui est en forme, 72e, mais Adani, 75e, Adani qui donne la victoire à son
revenant.
Le revenant, c'est beau,
le papy, le papy de l'AFL. Alors, ouais. on peut dire ça, bon, oui, il va pas se vexer, on sera pas obligé de s'excuser.
On sera pas obligé de dire ça parce qu'on a le même âge avec.
Voilà,
avec
c'est pour ça.
Donc un match fou en effet, et puis donc voilà la preuve que nos joueurs ont du caractère. Et
ça fait beaucoup de buts pris quand même en deux matchs. Je veux bien qu'on ait beaucoup de caractère, ce qui est vrai, on remonte au score, ça fait deux matchs, on remonte au score, où on marque beaucoup de buts qu'on gagne, mais ça fait quand même deux buts le dernier match, trois cette fois-ci.
Contre là, tu t'es mené 2-1, donc après tu fais un 5-2, et là tu es mené 1-0, 2-1, 3-2, et après tu t'arraches 4-3, ça passe. Bon, c'est super, parce que on parlait d'un bon résultat des Cheminots-Nîmois qui avaient perdu à Inde. Mais là, le bon résultat, c'est Frontignan qui est en train de décrocher,
de lâcher prise.
Et donc, après une défaite contre Narbonne sur leur pelouse dimanche précédent. Donc là, ils ont perdu à Latte, donc une équipe qu'on avait vue. En plus, Latte qui était privé d'un joueur, puisqu'il avait pris un rouge contre l'AFL. Et donc, une énorme fin de match houleuse quand même à Latte, avec un but... quasiment entaché d'un hors-jeu pour Latte à la dernière minute, donc ce qui fait 2-1 pour Latte contre Frontignan. Et donc il y a eu deux cartons rouges suite à ça.
Oui, ils n'ont pas trop apprécié.
Un de chaque côté, et en particulier l'excellent capitaine attaquant de Latte. Donc pour eux, ça va être compliqué dans les matchs qui vont
arriver. Ce qui est embêtant, c'est que Narbonne a quand même gagné 2-0.
Ça, c'était plus logique.
Contre Conques, c'était logique, mais on aurait bien aimé que la règle ne soit pas respectée.
Après, le souci, c'est que c'est vrai que prendre 3 buts contre une des équipes qui joue en bas de classement...
C'était quand même notre boîte noire.
C'est vrai. Bah, les clubs perpignanais sont généralement... C'est très compliqué pour l'AFL. Mais c'est peut-être le petit bémol de la journée.
Ouais, le coach la semaine dernière nous disait qu'effectivement, il n'y avait pas de match facile dans ce championnat. Ça s'est vérifié, puisque tu fais un déplacement à Perpignan qui est dernier. Tu penses que ça peut le faire tranquillement. Et puis au final... Tu t'en sors avec un match difficile et une victoire arrachée dans les dernières minutes.
Oui, sur les synthétiques. On a joué sur synthétique, on sait que c'est toujours compliqué. Puis c'est vrai que la semaine dernière, presque, on s'est interrogé, mais comment on a marqué 5 buts et Fadil n'a pas marqué. Bon, là, tu marques 4 buts, il en marque 2, il fait 2 passes décisives.
C'est grâce à nous. Je pense qu'il
nous a écoutés.
Il nous écoute.
Alors, je sais pas si on peut dire réveil, mais en tout cas, bon, un match énorme de la part du capitaine. Voilà, deux buts, 2 passes décisives.
Qui on pourrait réveiller alors cette fois-ci là?
Rebolosso est très réveillé.
Toi, t'as réveillé un peu la défense tout à l'heure en disant.
Il faut réveiller la défense.
Moi, je me pose des questions parce qu'en prenant 3 buts contre le dernier, 2 buts la dernière fois. Ce week-end, il y a le second qui arrive.
Narbonne qui a une attaque de feu qui marque but sur but. Ouais. Bon, en tout cas, énorme match. Bon, c'est vrai qu'il y a le volet en même temps, mais.
À dimanche, il faudra faire
au
un
chapitre,
choix.
Au chapitre, c'est quand même ça.
Ça va.
Ben, 3 heures aussi.
15 heures, pareil.
Donc, bon, là, il y a un match incroyable qui s'annonce. Alors, c'est vrai que le coach, il nous a dit, il y a des matchs après. C'est vrai, il a raison, mais bon, quand même un tournant pour moi. Un tournant incroyable dimanche.
Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a quand même, ça sera un match à 3, je pense, parce que je pense pas que Montferrier va revenir.
Je pense pas.
Très gros championnat de Montferrier qui est premier, en tout cas.
Ouais, sachant que Perpignan, avec ses 46 points.
Un match de moins.
Mais alors, c'est un match de moins ou c'est le résultat?
Non, c'est un match en retard.
D'accord.
Après, ils peuvent revenir à 50 points.
Ouais, c'est ça. Mais après, il y a ces points de suspension qui, je pense, sont pas comptabilisés dans le classement.
Les trois points ne sont pas comptabilisés.
Voilà, ils seront comptabilisés en fin de saison. Peut-être même plus selon comment continue leur saison, puisqu'ils ont aussi deux points de sursis.
Un sursis, ouais.
On peut dire, grosso modo, ça va être un match à 3, voire même un match à 2. Et prendre 4 points d'avance, enfin 3 points d'avance sur Narbonne la semaine prochaine, ce serait quand même une belle opération.
Oui, parce que Fontignan a un match de retard, mais à 42, ça leur ferait 46. Donc ça te fait déjà 6 points de retard par rapport à la Eiffel. Donc c'est vrai qu'il y a ce choc incroyable contre Narbonne, avec Perpignan aussi en embuscade qu'il ne faut pas oublier. Mais c'est vrai, avec ses points de pénalité qui est un peu décroché.
Si le choc se termine par un match nul et que Perpignan gagne,
non, mais tu fais
Perpignan
bien.
Double tout le monde.
Ouais, oui. Et t'as une capacité. Ouais, il faut gagner les matchs en retard aussi. Matchs en retard, ils sont pas gagnés à l'avance. Hein.
Mais d'ailleurs, je crois que c'est contre Latte, ce match en retard.
Je crois que c'est contre Latte aussi. Ouais.
Puisque le match en retard de Fontignan, lui, est contre Conc.
Du coup, le match nul, c'est pas un bon résultat le week-end prochain.
Écoute, je te dirais que. Je signerai pas, mais ça me dérangerait pas trop. Parce que comme tu as gagné à Narbonne, tu garderais ce fameux golarouage particulier favorable.
Et c'est ce qui a coûté la montée à la FL l'année dernière.
Exact.
C'est ce golarouage contre Poulan-Pézenas.
Ouais.
Pour la petite histoire, Poulan-Pézenas qui a un match en retard, s'ils gagnent leur match en retard aussi, ils sont premiers leur poule de CFA2.
Eh ouais.
Ils leur passeraient devant.
Ils leur passeraient devant, puisque Montpellier a perdu là.
Ouais, ils auraient 2 points d'avance, ce qui prouve quand même que c'est pas une équipe qui.
C'est plus facile à CFA2.
Bah, différent.
Ouais. Luc, tu veux pas leur donner des conseils à la défense, toi qui es leader de la défense du BC?
Coupe
le micro.
Éteignez les radios. Je peux leur donner des conseils, faites pas comme nous. Voilà.
Le problème avec Luc au basket, effectivement, c'est qu'il tacle aussi un défenseur. Donc c'est difficile. Hein.
Ouais,
Les arbitres aiment pas. Ils me disent c'est pas bien, faut pas tacler, c'est monsieur. Gilet.
En tout cas, on continue de vibrer semaine après semaine.
Non, c'est vrai,
dans le coup, ils
c'est prodigieux.
Premiers,
c'est prodigieux.
3, excellent.
On vit une saison incroyable. Ouais.
Il vaut mieux ça que de gagner 1-0. Là, ils reviennent 3 fois au score, ils gagnent à la fin.
S'ils gagnent tous les matchs 1-0 jusqu'à la fin de la saison, on prendra.
Et 4-3 aussi, on prendra.
Ouais. Oui, bien sûr. Mais
je pense que pour les dirigeants et pour le coach, ça a dû être chaud hier.
Hein. Ça fait déjà 2 week-ends que ça passe de justesse. Donc là, le week-end prochain, c'est évident que les joueurs vont se remettre en question cette semaine. Enfin, se remettre en question, façon de parler.
Est-ce qu'il y a des retours de
blessés ? Ils vont être hyper motivés. Il y a Benjamin Almeras qui a repris l'entraînement la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si ce week-end il a
pris. Ouais, très bien.
Je ne crois pas qu'il ait joué à Perpignan. Et donc, ça veut dire que la semaine prochaine, il est à disposition du club, donc c'est-à-dire que l'équipe 3 joue en Coupe d'Alu au Chastel. Il peut jouer au Chastel comme il peut jouer en 2 ou en 1.
Non, mais ils réfléchissent demain à mettre une éolienne sur le terrain du Chastel, donc tu peux abandonner.
Ah, okay.
Non, c'est une très bonne nouvelle, ça, Patrick.
Oui, c'est vrai.
Almeras qui revient.
Non, mais on parle des difficultés d'effectifs de l'AFL, mais ils sont réels, puisque c'est vrai que Momo Adani. A été rappelé, bon, c'est vrai qu'il
joue en 3.
Voilà, exactement. Bon, il avait fait une croix, et c'est logique. Mmh. Bon, il s'était mis un peu en retrait, donc là, le coach a été obligé de le rappeler, donc tu vois quand même, et la 2 en plus se jouait pas, puisque les stades sur Mende ont été fermés. Bon, c'est là qu'on voit quand même toutes les difficultés pour composer un effectif de cette équipe première. C'est... Il y a beaucoup de blessés, c'est vrai.
Pourtant, c'est pas le secteur offensif qui semblait le plus affaibli ces derniers temps.
Non, c'était le joker pour qu'il fasse gagner l'équipe. Vous avez pas compris, vous. Hein. Vous avez rien compris.
Donc, en fait, si j'ai bien compris, Adani joue en 3.
Ouais.
Il l'a rappelé pour jouer en 1 et il marque le but de la victoire.
T'as tout compris.
C'est la belle histoire du week-end, quand même.
Ah ouais.
Ça aurait pu être Laurent.
Et oui, parce qu'ils sont de la même génération. Ils sont de la même génération.
Je suis désolé. Alors, on a le même âge.
Ceci dit, à la 90e, Laurent, il aurait peut-être plus été sur le terrain aussi.
Si j'étais rentré à la 88e, oui, mais. Oui.
Il est en train de dégueuler sur le joueur adverse. Non, ouais, bravo.
Bravo à Momo.
Bravo à Momo, vraiment, génial. Donc la semaine prochaine, ce match super important, dimanche à 15h au stade Jean-Jacques Delmas, on vous attend bien entendu nombreux, encore plus nombreux que d'habitude pour encourager cette équipe. Allez, notre invité Frédéric Delars, vainqueur de la Coupe de France de VTT, sportif de l'année Midi Libre. Luc, vu que c'est le sportif de l'année, je te laisse le présenter un peu.
Bah, t'as dit quasiment l'essentiel, vainqueur de la Coupe de France VTT de cross-country, troisième du championnat régional de cyclo-cross. Voilà, il est aussi conseiller technique départemental du comité de cyclisme. Il est aussi président du team VTT Lozère et éducateur et cadre technique
de la section cyclisme au Centre Omnisports Lozère.
Voilà.
Donc, tu fais de la route un peu aussi ou pas?
À l'entraînement.
Ah. Ouais, juste pour dérouiller quoi.
Voilà, et la saison prochaine, il évoluera donc en élite avec tous les meilleurs coureurs français et même quelques-uns des meilleurs coureurs mondiaux puisque les Français font parmi
les... Tu nous as pas dit son âge.
J'ai 27 ans.
Voilà.
27 ans. Ouais. Attaquer en élite à 27 ans, c'est pas rare. Plus jeune habituellement.
Non, il y en a qui attaquent encore même un peu plus tard et puis on en a qui ont 22, 23 ans et qui sont déjà élites.
Ouais.
Donc il y a vraiment tous les âges quoi.
Alors, vous êtes tous des spécialistes de sport. Pour nos auditrices qui écoutent surtout Laurent, qui attendent, il faudrait leur expliquer le VTT, c'est quoi en gros? C'est on n'est pas sur la route.
Là, tu snobes nos auditrices quand même. Ça va pas.
Mais tout le monde sait ce que c'est un VTT. Non, moi je sais pas par exemple.
Ah ouais.
Ouais.
Bon, mais.
Fred, explique-nous un peu comment ça se passe une compète de VTT.
C'est une discipline olympique déjà. Après, donc c'est du cyclisme, donc tout terrain, sur un parcours accidenté en pleine nature, sur un circuit qui fait entre 5 et 7 kilomètres, donc à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Et voilà, c'est un sport individuel.
Vous partez pas en même temps, c'est chronométré ou vous partez en même temps?
C'est chronométré et donc il y a un départ par catégorie.
D'accord. D'où ça doit être assez dur comme sport.
C'est assez dur parce que donc c'est un sport qui est très physique et qui est rendu technique par le terrain.
Par les difficultés.
Voilà. Patrick.
C'est vrai que la France quand même domine ce sport du VTT aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Bon, chez les hommes, bon, il y a eu Absalon, il y est toujours, mais c'est un champion énorme, deux fois champion olympique. Hein.
Oui.
Voilà. Et donc chez les femmes, Pauline Ferrand-Prévot, qui elle en plus est championne partout sur la route, en cyclocross, en VTT. Et donc c'est vrai qu'elle aussi, c'est une chance énorme de médaille à Rio au mois d'août en VTT et dans d'autres disciplines. Et c'est vrai qu'Absalon, lui aussi, certainement va arrêter ou mettre un terme à sa carrière après ces Jeux Olympiques. On l'attend et c'est vrai qu'on est vraiment en France. On parle, il y a ces deux figures de proue, mais aussi derrière on a tout un tas de coureurs qui font, qui marchent super bien et qui font des podiums aussi. Et après on les retrouve sur la route puisque Perrault, qui s'illustre sur le Tour, a été un grand VTTiste également. Voilà, dans d'autres pays aussi c'est pareil. Cadel Evans avait commencé par le VTT avant de gagner le Tour de France. Donc c'est une discipline qui est, ça forme bien. Et puis c'est vrai que ça, c'est mode, c'est tendance à tous les niveaux. Voilà, on aime faire le VTT. Et mais il faut pas mettre de moteur dans son vélo, attention.
Ouais, on y revient.
Et je crois que Fred, tu mets pas, rassure-nous, tu mets pas de moteur dans ton vélo. Tu sais, ça va. Bon.
Je vous rassure.
Bon, d'ailleurs, nous on boit du pinard.
Et charbonne de moto.
On peut le dire. Ouais. Absalom, il y sera en élite?
Oui, ça reste encore le chef de file cette année, donc pour la sélection qui ira à Rio.
Mais tu vas peut-être l'éliminer pour Rio, tu vas peut-être te qualifier à sa place.
Non, je pense pas. Non, il y a encore une grosse marche.
Luc,
oui, on va peut-être dire que l'angle objectif de Fred la saison prochaine, ce sera de se maintenir dans cette catégorie élite. Pour ça, va falloir un peu jongler entre le col, les entraînements, la route, enfin. Un peu tout ça, comment ça va se passer pour toi?
C'est vrai que ça va être compliqué, donc là c'est sûr que je sors des rangs amateurs. On était à peu près 200 au départ d'une manche de Coupe de France. Là en élite on n'est plus qu'une centaine. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce sont vraiment les meilleurs que l'on retrouve. Une saison est chargée, une saison élite, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, du temps. Forcément, donc c'est vrai que de jongler avec un petit peu mes fonctions de cadre technique au centre et puis au niveau du comité, ça va être un petit peu compliqué. Mais on va essayer de faire au mieux.
Il y a combien de courses dans une saison élite sur toute la saison?
Alors pour rester élite, en fait, la seule solution, c'est de rester classé au classement général de la Coupe de France, ou alors de faire une place au championnat de France, qui est vraiment une course à part. Donc la Coupe de France comporte 4 manches, et le championnat de France, c'est sur une seule course. Voilà.
Ah, il n'y a que 4 épreuves.
Il n'y a que 4 épreuves.
Ouais. Tu marques des points, et voilà. Après, celui qui a le plus de points, bien sûr, il a gagné la Coupe de France.
Entre ces épreuves de Coupe de France, tu as quand même d'autres épreuves, des critériums.
Il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe du Monde aussi.
Voilà, il y a la Coupe du Monde. Non, mais après, il y a des épreuves régionales, nationales, qui ne font pas partie de la Coupe, mais qui, que l'on se sert pour préparer les manches. Bien sûr, oui.
D'accord. Ouais. Laurent avait une question.
Donc tu disais que tu arrives du rang amateur. Donc là, tu passes professionnel, donc comment ça se passe là?
Et non, malheureusement, c'est pas au.
Élite, ça reste amateur.
Il va se confronter aux professionnels.
Non, en fait, dans les rangs élites, il y a quelques coureurs qui vivent de ça. Mais sur les 100, 120 pilotes élites, comme je disais tout à l'heure, ils sont peut-être 5 ou 6 à être professionnels. Et à vivre vraiment de leur métier, de leur passion. Non, moi, je serai élite, mais loin d'être professionnel.
Sous les couleurs de quel club tu seras? Quelle équipe? Je ne sais pas comment ça se passe.
Alors, c'est une équipe, c'est le Team VTT Lozère. En fait, c'est une équipe qui est indépendante de tous les clubs lozériens et qui recrute en fait les meilleurs éléments dans chacun des clubs lozériens pour les amener sur les manches nationales. Voilà.
D'accord.
Un peu comme Athlé Lozère le fait en athlétisme en regroupant les meilleurs athlètes de toutes les disciplines. On parle de tes résultats, mais il y a les jeunes aussi. On peut peut-être dire un petit mot des jeunes lozériens qui ont brillé et qui continuent à briller en VTT.
Oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux là, depuis un petit peu l'émergence là, des courses comme le TRJV qui leur a permis un petit peu d'éclore grâce à une multitude d'activités. Là, les jeunes lozériens sont de plus en plus bons et on en retrouve dans les premières places régionales et même nationales. L'an dernier, on a eu Axel Roudil, que j'avais au Centre Omnisport Lozère, qui a intégré cette année, 2016, le Pôle France de Besançon, donc qui est vraiment la réserve de l'équipe de France de VTT.
Patrick, tu avais une question, je crois.
Non, mais c'est vrai qu'on parlait du Team VTT Lozère. Il y a quelques sports dans notre département qui ont pris conscience qu'il fallait vraiment se regrouper et mettre un peu de côté cette bannière. Voilà, moi, je suis de Florac, moi, je suis de Seychelles, moi, je suis de Mende. Et donc, l'athlétisme, c'est vrai, a été précurseur en faisant Athlé Lozère. Et on voit d'ailleurs les résultats qu'ils ont, aussi bien au niveau, bien sûr, régional, mais aussi au niveau national. Et donc c'est bien, le VTT l'a compris, ils ont fait ce team et ça permet justement les meilleurs et de leur permettre, de leur faciliter les choses au niveau de l'organisation, des déplacements, inscriptions, etc. Et donc félicitations à ce sport d'avoir su faire ça et il faudrait que d'autres sports aussi de plus en plus fassent pareil.
C'est ce que veut faire le comité départemental de basket avec son équipe féminine pour essayer de mettre en place une entente féminine. Pour regrouper des filles de un peu tous les clubs, puisqu'il y a commencé à y avoir quelques clubs en Lozère, et de pouvoir regrouper un peu tout le monde sous la même bannière, pour être plus fort sur les manches.
Pour moi, c'est vraiment la solution idéale. Alors après, c'est vrai que dans d'autres sports, c'est compliqué à mettre en place. Mais bon, à mon avis, c'est vraiment la solution d'avenir. Il faut que de plus en plus de sports fassent cette démarche de faire, en quelque sorte, un club Lozère.
Y compris le foot? Je crois qu'on pourrait avoir une équipe avec le NL.
Alors, attends, ça fait 15 ans moi, que je suis en Lozère et ça fait quasiment 15 ans qu'on en parle. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que, le foot, il y en a vraiment, c'est passé, il y a 30 clubs. Il y a 30 clubs en Lozère. Alors, fusionner 30 clubs, puis après, il y en a vraiment qui sont vraiment juste là pour se faire plaisir et donc il faut pas enlever ça. Mais, un club Lozère, bien sûr, basé sur Mende, pourquoi pas. C'est vrai que, au football, ça paraît quand même compliqué. Mais pour d'autres sports, c'est vraiment mieux adapté.
Ça aurait de la gueule comme équipe, quand même.
Au football, il y a...
Ça aurait de la gueule comme équipe.
Ça aurait de la gueule, c'est vrai.
Il y a un problème, c'est les gardes-clochers. Voilà. Et ça a été déjà très, très, très compliqué de faire une entente entre les Veil-Mendois et le Val-d'Aunès.
D'ailleurs, le Val-d'Aunès a recréé un club.
Du coup, même le Val-d'Aunès a recréé un autre club. Donc, imagine pour regrouper le Nord-Lozère, Marvejols.
C'est utopique, c'est utopique.
Mais ça serait une riche idée, par contre.
Mais moi aussi, franchement, J'aimerais voir ce que ça donnerait vraiment un club d'Auxerre. Pourquoi pas dans tous les sports finalement, c'est vrai, en particulier au football. Bon, à mon avis, peut-être ça fédérerait même, tu vois, au niveau du sponsoring, même des collectivités, aussi bien du sponsoring privé, ça pourrait enclencher peut-être une dynamique et vraiment que tu aies un budget vraiment
comme
conséquent
Barcelone,
pour jouer
un rôle. Pour tous les clubs, qu'est-ce qu'il y a, Aurélien?
Moi, j'aimerais bien revenir au VTT un petit
Merci,
peu.
Merci, Aurélien.
c'est quoi tes points forts, toi, sur une course qu'est-ce qu'il faut avoir déjà comme qualité pour faire du VTT? Et toi, quels sont tes points forts?
Alors non, justement, avant le bon moteur, moi c'est vrai qu'il faut des bonnes qualités physiques et bonnes qualités techniques. Il faut pouvoir franchir les obstacles tout en restant, comme on dit, dans le rouge. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'entraînement, tout au long de l'année.
Non, mais c'est vrai qu'on parlait de moteur, mais plus sérieusement, on peut te poser la question, est-ce que tu as été tu étais au niveau amateur, est-ce que tu as été confronté, est-ce que tu as eu des doutes en te disant c'est quand même bizarre quand même, là il a fait cette accélération, bon moi j'étais quand même là, et puis tout d'un coup il me met je sais pas moi 50 mètres ou 100 mètres dans la vue. Bon, après le dopage classique entre guillemets, bon ça tu vas nous le dire, mais je pense que tu as été confronté. Tu as eu quand même certains de tes concurrents, je pense, qui ont dû se faire choper un jour ou l'autre au dopage. Mais ce dopage technologique, est-ce que tu penses qu'il existe aussi au niveau amateur?
Au niveau amateur, je sais pas. Après, c'est vrai que bon, on en entend de plus en plus parler dans le milieu professionnel. Après, du peu que j'ai entendu, c'est vrai que c'est un dopage qui coûte extrêmement cher. Et je pense que toutes les équipes professionnelles n'en ont pas les moyens de s'en équiper. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui en sont équipés, ça c'est sûr. On peut voir les vidéos, les vidéos sur Internet. Au vu des articles, des recherches scientifiques qui ont été menées, c'est clair qu'il y a certaines équipes qui doivent en posséder, c'est sûr.
Et ouais, c'est bien triste, hein, mais ça existe dans tous les sports, de toute façon, la tricherie. À part toi, dans ce team Lozère, il y a des bons coureurs qui ont de l'avenir, je pense notamment à des...
Alors là, on a recruté des jeunes, donc des jeunes. On verra cette année ce qu'ils vont donner sur la Coupe de France.
On peut dire aussi, Fred, tu fais pas mal de cyclo-cross. Comment ça se passe, justement, la préparation? Est-ce que tu te prépares spécifiquement pour la saison VTT? Le cyclo-cross, je sais que c'est plutôt l'hiver. Comment tu gères tout ça?
Alors, c'est vrai que le cyclo-cross se court durant l'hiver, en général d'octobre à mi-janvier. Moi, c'est ma saison VTT me prépare au cyclo-cross et la saison cyclo-cross me prépare au VTT. Voilà. Ma coupure, elle se passe durant l'été parce que je suis aussi maître nageur et du coup, je travaille toute la saison d'été sur la piscine de Marbejol. Donc, je reprends doucement au mois de septembre par quelques courses de VTT qui restent inscrites à la saison. Et après, donc, j'attaque avec la saison de cyclo-cross. Qui dure jusqu'au mois de janvier. Donc c'est vrai que ça reste un programme assez chargé, mais j'essaye de maintenir le rythme d'une discipline à l'autre.
La route un peu, c'est pour ce que tu m'expliquais pour la prépa physique.
J'en fais pas plus, uniquement des sorties pour m'entraîner.
En tout cas, merci d'être venu. C'est sympa.
Merci à vous.
Un prix mérité. On essaye de parler du cyclisme quand on peut. On sait que ça peut être compliqué. On va essayer d'avoir Caramel aussi un jour dans cette émission. On nous l'a demandé déjà. Bon, il n'est pas souvent en Lozère maintenant, mais on va essayer de l'avoir. On va faire une petite pause musicale. Alors, une chanson courte. J'ai changé la chanson au dernier moment pour pouvoir après parler de rugby, de foot, de Ligue des Champions. De pronostics d'ailleurs, Ligue des Champions et de Ligue 1, je sais pas, c'est pas très intéressant, mis à part la victoire de Montpellier à Toulouse dans ce match ô combien important.
À Montpellier,
mais bon, on va voir si on aura le temps d'en parler.
I want love to roll me over slowly, stick a knife inside me. Twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, and show me how it's all my fault. And I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, and show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me.
Allez, c'est reparti.
Trop naze, la chanson. Voilà, à côté merci de... aux auditeurs et aux auditrices de rester
ça,
avec
ça,
nous.
Ça hein. nous a donné une pêche, nous, ici.
Oh, la banane, quoi.
C'est la country.
Alors, à compter de la semaine prochaine, chaque chroniqueur de l'Instant Sport choisira une chanson. Comme ça, vous pourrez juger. Ouais. En attendant, alors, tu es pressé, c'est ça
Oui, j'ai un rendez-vous professionnel, donc...
Donc, va passer directement...
T'as un vrai métier, en fait.
Eh oui, j'ai un autre métier.
Merde.
Mais bon, c'est le seul d'entre...
J'ai un métier, quoi.
C'est le seul d'entre vous qui est payé pour être chroniqueur à l'Instant Sport.
Eh oui.
Ah mince.
Bon, ça, on devait pas le dire.
Ah bon mais... c'est normal. Non, mais c'est normal, c'est normal.
Eh oui. Pronostic rugby, on n'était pas loin. Luc avait pronostiqué la victoire de la France d'un point, moi de 5 points, Patrick de 8, Aurélien et Laurent avaient pronostiqué l'Irlande, bien sûr. Donc on n'était pas loin.
Et le coach de l'AFL, notre invité la semaine dernière, qu'est-ce qu'il avait dit?
Match nul, il avait dit.
Il avait dit match nul.
Il était pas loin, il est aussi,
il était pas loin aussi, finalement. C'est vrai. En tout cas, bravo Luc. Pronostic ce mardi, on revient au foot, la Ligue des Champions. Tu as 5 minutes quand même, Laurent.
Oui.
Alors avant de pronostiquer, on va juste parler de ce match. Paris et Chelsea sur cette équipe. Patrick, donc sans Serge Aurier, mais avec Marquinhos à la place. Chelsea apparemment sans Terry. Donc avec
oui, c'est pas
le
encore,
seul
mais, ouais.
Gary Cahill peut-être
sans Zuma
parce que Zuma est blessé. Sur ce match, comment tu le sens, Patrick?
Moi je vois qu'un Paris favori par rapport aux années précédentes. Chelsea, chacun sait les difficultés depuis le début de la saison, ce changement d'entraîneur qui est amené, mais sans trop amener quand même.
Grosse une équipe,
Newcastle qui est complètement à la rue. Donc moi je vois quand même Paris favori et je vois Paris qualifié pour les quarts.
Ok, cette histoire de Serge Aurier, Aurélien, ça va pas les déstabiliser?
J'espère que non. C'est vrai que quand tu commences à critiquer ton vestiaire et tes coéquipiers, c'est vrai que ça peut foutre un peu le bordel. Mais je pense que c'est quand même un groupe solide, donc je pense pas que ça va les déstabiliser.
Non, puis il y en a aucun qui parle français, ils ont rien compris, laisse tomber.
Zlatan a demandé une traduction, attention. Ouais. Il va zlataner Serge Aurier. Luc?
On n'écoute pas le pronostic de Doré.
Non, mais il n'y a pas de pronostic encore, on va y arriver. D'accord. D'abord, on parle du match.
Dans la mesure où le remplaçant de Serge Aurier s'appelle Marquinhos et que je ne suis pas certain qu'il perde beaucoup...
Il ne s'appelle pas Morel.
Il perd beaucoup au change. Bon,
heureusement pour Paris.
Comment vous savez que ça va être Marquinhos déjà?
C'est Marquinhos ou l'autre Brel.
Pour Vanderbilt. Je pense qu'il est meilleur que Marquinhos au poste d'arrière-droit.
Non, parce qu'à priori, ce qu'il dit en ce moment, la tendance serait plutôt pour Marquinhos que sur Vanderbilt.
Moi, c'est le choix que je ferais. Si j'étais Laurent Blanc, je mettrais Marquinhos.
Moi aussi.
si j'étais Laurent Blanc.
Tout le monde est d'accord, sauf Laurent. Verratti a re-signé jusqu'en 2020, donc ça c'est une nouvelle.
Ouais, mais ça c'est pour Laurent.
Verratti, un joueur incontournable, et j'espère qu'il sera en pleine possession de ses moyens, parce qu'il y a une équipe avec Verratti et une équipe sans Verratti.
Exactement, c'est comme Marseille avec Diarra.
De ce que disait Laurent Blanc à l'issue du match contre Lille, ça va être compliqué de le faire démarrer. A priori, il est encore
c'est
peu juste
bluff.
pour démarrer.
Il a une blessure.
À mon avis, il jouera d'entrée.
Ouais. Bah, c'est évident.
Je pense aussi. Allez, les pronostics, ça se joue au Parc des Princes. Alors, PSG, Chelsea, Laurent Julien.
Alors, 0-0.
Très bien. Luc.
Ah, il voulait dire ça.
Non, 2-0, 2-0 Paris. 2-0, oui.
2-0 Paris. Il marque toujours un Chelsea sur un coup franc ou un contre de rein.
Ouais, surtout que depuis qu'ils ont leur nouvel entraîneur, ils n'ont pas perdu encore, hein, je crois.
Non, hein. Ils n'ont pas perdu.
Donc, bon, je vois quand même Paris favori, je dirais 2-1 pour Paris.
Pas mal, ça.
Moi, je vais dire 3-1 pour Paris avec 3 buts de Thauvin. Jean-Marseille, pardon. Il marquera pas 3 buts. Hein. Ouais. Même à Marseille.
3-1, ok. Allez, Fred, pronostic.
Alors, je suis pas trop actualité, je veux pas me faire d'ennemis, donc je vais dire match nul.
Alors, il faut savoir quand même que Fred, avant, nous a dit en aparté, je sais pas trop le sport collectif, je lui ai dit un conseil, tu dis l'inverse de Laurent, et tu dis comme Laurent. C'est pas beau ça. Paris, bien entendu, j'hésite entre 2-1, 3-1.
2-1 serait un très mauvais résultat, par contre, messieurs.
Oui. Donc, je vais dire, vu que vous l'avez dit, je vais dire 4-1.
Ouais, c'est vrai.
Pour Ah, mais tu as raison. Ah ouais.
Allez, on continue ces pronostics. On va être fou. AS Roma, Real Madrid, c'est le lendemain. C'est le beau match également. On va partir en sens inverse. Je vais le donner, c'est à la Roma en plus. Roma, Real Madrid, 2-1 pour le Real. À toi, Fred. C'est difficile, il n'a pas parié encore, Laurent.
Allez, 1-0 pour le Real.
1-0 pour le Real. Patrick.
2-1 pour la Roma.
Ouh, grosse cote, ça, c'est bien.
2-0 pour le Real.
Ok, Luc.
3-1 Real.
3-0 pour le Real Madrid.
Ok, très bien, merci. Tu veux y aller, Laurent ?
Ouais, je vais vous laisser. Ouais. Donc, à bientôt, les copains.
Merci d'être venu.
Tu aurais dû rester 2 minutes de plus. Hein.
Pourquoi ?
La semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai que c'est 27.
Non, mais c'est bon, j'y vais. Allez, salut. Au revoir, tout le monde.
Allez, ciao, Laurent. C'est ce micro, plutôt. Ciao, Laurent, à la semaine prochaine. On va dire un mot sur le rugby. Alors, l'équipe de France, on vient de le dire, a gagné d'un petit point. Ça faisait, je ne sais pas combien d'années qu'on n'avait pas gagné hier,
4 ans.
Patrick. 4 ans. Le résultat est là, hein.
Oui, il y a eu un match compliqué, surtout en première mi-temps, où les Irlandais ont quand même dominé assez largement les débats. Et puis cette équipe s'accroche, il y a quelques individualités qui sont quand même marquantes dans cette équipe de France. Et puis surtout les remplaçants qui ont énormément apporté. En particulier, moi j'ai bien aimé le demi de mêlée remplaçant, Machenot. Et donc il y a eu toutes ces mêlées, puis finalement cet essai, on a réussi à tenir. Ouais, c'est encourageant, on recommence un peu à vibrer. Et bon match de l'équipe de France. On verra dans 15 jours au Pays de Galles un nouveau cap à franchir.
Aurélien, tu as vu le match ?
J'ai vu le match, ouais. Moi aussi, j'ai trouvé gros match de l'équipe de France. Effectivement, une première mi-temps où on ne touche pas trop le ballon, mais la grosse satisfaction sur la défense. C'est vrai que contre l'Italie, on les avait vus louper beaucoup de plaquages. On se disait que si c'était la même contre l'Irlande, ça pouvait faire mal. Là, quand ils n'ont pas eu la possession, ils ont quand même très, très bien défendu. Et puis après, deuxième mi-temps, on a remis un petit peu la main sur le ballon. Et après, on marque un essai salvateur, effectivement, qui nous fait gagner le match. Donc, de gros espoirs, ça fait plaisir. Et ça fait du bien, effectivement, de gagner contre l'Irlande. Ouais.
Ouais, il paraît une grosse deuxième mi-temps, notamment devant...
Pardon, j'avais coupé le micro de Laurent tout à l'heure.
Notamment au niveau des avants, la première ligne qui est rentrée, qui a fait énormément de bien. Et d'ailleurs, ça s'est vu... Hein. Dominateur en mêlée, ce qui a permis de marquer cet essai. J'ai bien aimé le petit plisson aussi
très bon plisson,
à l'ouverture. Médard sur son poste derrière, même si pour moi il garde un peu trop souvent le ballon de temps en temps. Et puis
Vakatawa
qui a encore fait. Alors même si on l'a moins vu s'illustrer.
Quasiment le 9e avant. Hein.
Mais voilà, il est toujours très près des rucks, il est toujours. Toujours prêt, toujours disponible.
Il avance
tout le temps. Quoi. C'est pas un joueur qui recule. Non. Après, je pense que l'équipe du Pays de Galles, ça va être une autre paire de manches. Même s'ils ont été accrochés contre l'Écosse. Et voilà, quand
27-23.
Ouais, 27-23, voilà, avec un essai à la dernière seconde à des Écossais. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui a plutôt bien digéré sa très mauvaise Coupe du Monde, c'est l'Angleterre, qui a mis 49, je crois.
C'est ça, 49.
À l'Italie. Et voilà, je pense qu'ils ont mieux digéré leur Coupe du Monde que nous.
On a égalité, 4 points l'Angleterre, 4 points la France, 3 le Pays de Galles, 1 l'Irlande, Écosse-Italie à 0.
Non, mais tu sens qu'au niveau de cette équipe de France, il y a une reprise en main incontestable de la part du staff, en particulier de Noves. On sent que les joueurs sont vraiment à l'écoute, une application des consignes, à mon avis, totale. Et puis, bon, il y a quand même un coach qui n'hésite pas à changer. Tu gagnes contre l'Italie, mais bon, il se rend compte qu'il y a eu quand même des difficultés. Et puis, il fait 6 changements dans son équipe. Alors, bon, il y avait certes un blessé, mais bon, quand même, les deux piliers se font bouger par les Italiens, il les met remplaçants, et après, quand il les fait rentrer, bon, mais c'est eux qui font la différence. Bon,
La réaction d'orgueil des deux, et ça a plutôt bien marché, même si Benaros sera pas là, c'est forfait.
Il s'est pété les côtes.
Il s'est blessé aux côtes.
Donc, ce match-là, si c'est Saint-André le sélectionneur, mais c'est clair, tu le gagnes pas. À mon avis.
Ok, mais on ne saura jamais parce que c'est plus lui. Et mais oui. En tout cas, Noves, ça fait du bien. On voit qu'il insulte et qu'il a qu'il impulse un nouveau
état d'esprit,
un nouvel état d'esprit, ouais, un vent de fraîcheur.
Non, puis tu te fais des passes, hein, voilà. Bon, ouais. Au moins.
Oui.
Ouais, ça faisait un moment que j'avais pas entre guillemets vibré. Bon, c'est pas l'extase, mais enfin, voilà, tu te disais, bon, tu les voyais, tu défendais avec eux, et puis après, sur ces mêlées, tu te disais, ouais, ça va passer, puisque tu voyais que l'arbitre voulait pas accorder cet essai de pénalité. Qui, à mon avis, l'aurait dû accorder bien avant que tu marques, parce que bon, il y a quand même eu quelques attitudes des piliers irlandais qui se sont mis aplatis par terre, voilà, pour pas empêcher, pour t'empêcher de franchir la ligne. Bon, l'arbitre n'a pas voulu, finalement tu marques, l'histoire se termine bien. Mais bon, voilà, tu vibrais un peu comme ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé.
On se rappellera juste qu'il y a 3 ou 4 mois, cette équipe-là nous avait mis une belle correction en Coupe du Monde. Et c'est pas une équipe qui a fondamentalement évolué depuis la Coupe du Monde, hein, l'équipe d'Irlande, qui a perdu Paul O'Connell, mais qui de toute façon a arrêté. C'est toujours la même charnière, c'est toujours à peu près les mêmes joueurs. Et là, bah, sur le tournoi des destinations, on les écrase d'un point.
Tu as un peu de réussite. Hein. Avant, tu n'avais pas l'arbitre qui est juste devant. Tu vois Maestri, bon, qui fait un acte d'anti-jeu. Vraiment, à mon avis, c'est pas beau parce que bon, Sexton a envoyé le ballon depuis quand même fort longtemps et il lui met un coup d'épaule quasiment en pleine tête. L'arbitre t'a un mètre, hein, il peut mettre le carton jaune, il le met pas. Bon, après, il y en a qui disent qu'il aurait pu mettre sur Guirardot. Bon, sur Guirardot, bon, c'est quand même plus dans le mouvement, c'est quand même plus dans l'action. Alors que là, Maestri, c'est vraiment un acte d'anti-jeu caractérisé.
Gros match, un gros tournoi là, sur ces deux matchs là, de Guirardot.
Contre l'Italie, un peu dedans, mais là, c'est vrai que contre l'Irlande, match magnifique.
Quant à Johan Maestri, depuis qu'il a des jeans fabriqués en Lozère, on l'arrête plus. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, j'espère que ces deux joueurs vont pas être cités parce que au rugby, tu peux être cité après coup et donc prendre des matchs de suspension après coup. Donc c'est vrai que ces deux joueurs quand même importants dont on a besoin pour le match à Cardiff contre le Pays de Galles où ça va être très très compliqué.
C'est vrai.
Donc j'espère qu'ils seront là.
Ouais. S'ils sont cités, c'est qu'ils méritent de l'être et ils seront pas là et on trouvera des remplaçants. Hein, Patrick, on en a plein de jeunes joueurs.
Ouais. Bon, en deuxième ligne, je me fais pas un souci parce que le Clermontois qui est rentré d'ailleurs, qui a remplacé Maestri, qui a fait une rentrée, c'est vrai, tonitruante.
Fracassante.
Après, pour le talonneur, c'est plus compliqué. Il n'y avait pas Guirardot, ça serait compliqué.
Le problème, c'est que c'est Camicha qui a tout juste 20 ans. C'est vrai que qui a rappeler, fait sa rentrée, mais enfin. C'est...
Tu peux rappeler Kaiser, mais bon.
On va quand même faire attention à ces actes d'anti-jeu au niveau international. Ça pardonne pas. Au niveau de la discipline, va falloir se réfréner un peu.
Je crois que les Français ont toujours pas compris qu'ils pouvaient être cités après le match. En fait.
C'est leur petit plaisir, laissez-leur.
Pourtant, je croyais que ça serait réglé avec le départ de Papé. Je me suis dit que ça serait bon.
Mais c'est vrai que quand tu vois, il y a une trentaine d'années, il y avait l'autre fois un témoignage d'Embernon, une des plus grandes deuxième lignes de l'histoire du rugby français, qui jouait à Perpignan, à l'USAP. Et donc, il expliquait un match où il sautait les deux pieds joints dans les côtes de. Alors, je crois que c'était contre l'Irlande, mais justement, c'était contre l'Irlande. Et donc, il expliquait que l'arbitre l'avait vu, il était convoqué par l'arbitre, donc il se disait, ça y est. Il va me foutre dehors, puis l'arbitre dit bon, quand même, la dernière fois, arrêtez, monsieur Embernon, quand même. La prochaine fois, c'est dehors. Bon, donc il avait toujours un joker.
Ça, c'est les valeurs du rugby, c'est pour ça.
Ouais. Allez, c'est sur ces belles valeurs qu'on se quitte. Merci, les amis, on se retrouve lundi prochain.
Bye
bye.
Au revoir.
Ciao, bye.
Au revoir.
de Leslie John au couloir numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du tapis à Péro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du tour.